Bonsoir Thomas Larabi.
Bonsoir Hélène.
Alors on commence avec ce choc des générations en finale de l'US Open ce soir.
Oui, d'un côté la légende Rafael Nadal, de l'autre le tube de l'été, le jeune russe Daniil Medvedev. Fabrice Abgral, vous êtes en direct de New York à 3h maintenant du début de la rencontre. Une rencontre aux enjeux multiples, Fabrice.
Oui, c'est vrai, Daniil Medvedev va tout d'abord découvrir ce qui se fait de mieux en matière de tennis. Une finale en grand chelem, ce sera sa toute première pour ce moscovite de 23 ans qui réside à Monaco, mais qui depuis 5 ans s'entraîne à Cannes aux côtés de Gilles Servara dans une académie dirigée, qui plus est, par l'ancien joueur français Jean-René Lisnard. Et à leur contact, Medvedev d'ailleurs a appris le français qu'il parle parfaitement bien. Medvedev est numéro 5 mondial, mais il est assuré de finir le tournoi à la 4e place mondiale. C'est le joueur de l'été, tout simplement. Depuis début juillet, il a fait finale à Washington et à Montréal, il a remporté le Masters 1000 de Cincinnati et aujourd'hui il est en finale de l'US Open où il a l'occasion de devenir le 3e russe vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. En cas de victoire, il rejoindra Yevgeny Kafelnikov, vainqueur à Roland-Garros en 96, et surtout Marat Safin, hein, qui a remporté à son époque l'Open d'Australie en 2005 et surtout l'US Open ici en 2000, il y a donc 19 ans. Alors Daniil Medvedev, je vous le disais, disputera sa première finale en Grand Chelem. Pour Nadal, ce sera la 27e, la 5e à New York, où il s'est imposé à 3 reprises. Et il visera un 19e titre majeur. Vous savez ce que ça veut dire. Ça lui permettrait en effet, en cas de succès, de revenir à une longueur, une petite longueur du record de Roger Federer. Un record qui, du coup, serait donc sérieusement menacé. Et ça, dès l'année prochaine. Mais pour ça, il faudrait que Rafael Nadal batte Medvedev.
Merci Fabrice Abgral, en direct de New York. Et la seule fois où les deux hommes se sont rencontrés, c'était en finale à Montréal le 11 août dernier. Et le score était sévère, 6-3, 6-0 pour l'Espagnol. Pourtant, à en croire Gilles Servara, l'entraîneur de Medvedev, cette défaite peut être un atout pour son protégé. Écoutez.
C'est bien que Daniil l'ait joué il y a 3 semaines, parce que du coup, ça nous permet d'avoir certaines pistes. Et c'est pas négligeable du tout. Parce que jouer Nadal la première fois, c'est quand même une découverte immense. Donc c'est bien d'avoir pu jouer et perdre contre lui il y a 3 semaines. Contre Rafa, il y aura, quelle que soit la tactique qu'on veut mettre en place, on doit faire un match dantesque pour pouvoir lui passer dessus, quoi.
L'entraîneur français de Daniil Medvedev, Gilles Servara.
Et on n'arrête plus Charles Leclerc au volant de sa Formule 1.
Terminé, on ne l'arrête plus. Le pilote monégasque s'impose au Grand Prix de Monza cet après-midi, une semaine après sa victoire à Spa. Au volant de sa Ferrari, il devance les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, longtemps imbattable. Une victoire en Italie à la saveur particulière pour le jeune pilote, mais aussi et surtout pour la Scuderia Ferrari qui n'avait pas gagné depuis 9 ans dans son pays, en Italie. La Formule 1 n'est pas spécialement connue pour la ferveur de ses supporters, mais écoutez Hélène, les tifosi de Ferrari après la victoire de Charles Leclerc cet après-midi.
On se croit dans un stade de foot,
ouais,
dis donc.
Une ambiance de foot, de la folie. Donc 9 ans d'attente et le sacre d'un certain Fernando Alonso. À Rome, les explications d'Olivier Tosseri.
Les tifosi de la Scuderia exultent 9 ans que la Ferrari ne s'était pas imposée dans un Grand Prix d'Italie en Formule 1, un succès qu'ils doivent à Charles Leclerc qui récidive une semaine après sa première victoire obtenue à Spa en Belgique. Le pilote monégasque monte sur la première marche du podium, une victoire arrachée de haute lutte suite à une grossière erreur de son coéquipier Sébastien Vettel en début de course. Il se retrouve seul pour défendre les couleurs de la Ferrari. Rapidement en tête, il résiste aux assauts des deux Mercedes, du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, qui l'accompagneront finalement sur le podium. « Je n'ai jamais été aussi fatigué. La course a été très difficile », a immédiatement commenté Charles Leclerc avant d'ajouter « C'est un rêve. Gagner ici équivaut à remporter 10 grands prix ». La presse italienne ne tarit pas d'éloges sur sa victoire qualifiée d'impériale. Avec elle, il gagne désormais la première place dans le cœur des tifosi de la Ferrari. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et les Français Pierre Gasly et Romain Grosjean finissent respectivement 11e et 16e.
Allez, on passe au foot. Thomas, les Bleus tranquilles hein, hier soir face à l'Albanie, 4-1.
Oui, et dans ce match, c'est le Bayern Munich qui a fait tomber un record d'Arsenal vieux de 2010. Ce record, 4 joueurs de l'équipe de France évoluent actuellement sous les couleurs du club bavarois. Il s'agit de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et surtout Kingsley Coman. Kingsley Coman, l'homme du match hier avec un doublé et des arabesques qui ont fait tourner en bourrique la défense albanaise. Un doublé sous forme de renaissance pour l'ailier de 23 ans, longtemps miné par les blessures qui lui ont notamment fait rater la Coupe du Monde. Son partenaire en club et en sélection, Corentin Tolisso, tenait à lui rendre hommage cet après-midi à Clairefontaine.
Je pense que ça a été compliqué pour Kingsley. Après, voilà, je sais que c'est quelque chose de dur, donc je vais pas aller forcément lui parler de cette absence à la Coupe du Monde, mais j'ai vécu avec lui ces deux grosses blessures à la cheville. Et voilà, je sais que ça a été très très compliqué pour lui. Et de le voir aujourd'hui à ce niveau, et moi je le vois au quotidien, il est en très très grande forme, même à l'entraînement. Et ce qu'il fait depuis le début de saison, que ce soit avec le Bayern ou par rapport au match d'hier, c'est vraiment exceptionnel et j'espère qu'il va continuer comme ça. Comme je l'ai dit, les blessures, ça renforce mentalement et je pense que Kingsley est aujourd'hui très très fort mentalement et que ça l'aide avec ses prestations sur le terrain.
Et des blessures, il y en a eu aussi au cœur des supporters albanais hier lorsque l'hymne andorran a retenti par erreur au Stade de France. Une erreur accueillie par les sifflets. Le speaker veut rattraper le coup, il s'excuse alors auprès des supporters arménien, seconde erreur en forme de couac diplomatique qui est allé jusqu'en haut de l'État puisqu'Emmanuel Macron a présenté en personne ses excuses au Premier ministre albanais Edi Rama. Bruno Salomon, vous étiez au Stade de France hier soir, comment un tel raté a pu avoir lieu ?
Et c'est une triste erreur de mail qui a amené à ce couac très fâcheux et regrettable, nous dit-on à la Fédération. C'est en interne, à la FFF, un échange de plusieurs mails entre le service marketing et le prestataire sonorisation du Stade de France, avec à l'intérieur de ces mails un fichier audio avec les deux hymnes de l'Albanie et d'Andorre, d'où la confusion. D'ailleurs, on nous confirme qu'il y a bien eu répétition de protocole dans la journée de samedi, avec l'hymne andorran déjà à la place de l'hymne albanais. Personne à l'écoute n'a entendu l'erreur. Le protocole a donc été validé par l'UEFA pour au final arriver à ce gros raté. Mais en interne, on nous explique que, outre la diffusion du mauvais hymne, c'est vraiment la double erreur du speaker qui ne passe absolument pas. La voix du stade a parlé par deux fois d'hymne arménien au lieu d'hymne albanais au micro, se faisant huer par les fans de l'Albanie. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, le speaker est quand même toujours prévu ce mardi pour le match France-Andorre.
Les explications de Bruno Salomon, le licenciement n'est peut-être pas très très
On espère qu'il ne se trompera pas cette fois, c'est bien l'Andorre.
En rugby, troisième journée du top 14 aujourd'hui, Brive sort vainqueur du derby face à Clermont, 28-21. Ce soir, le choc de cette journée, le Stade Toulousain amputé de ses internationaux partis pour la Coupe du Monde. Le Stade Toulousain affronte le Racing, le 92. Toulouse, le champion titre, lui, traîne en ce début de saison. Deux matchs, deux défaites, un seul petit point au compteur. Alors ce soir, la victoire serait plus que bienvenue. Et pourtant, écoutez, l'un des entraîneurs toulousains, Clément Pointrenaud, refuse cette pression du résultat.
C'est le troisième match de la saison, donc voilà, la saison elle est longue, très longue, on le sait, 26 rencontres, non, il n'y a pas de défaite interdite. Après, évidemment qu'on a tous à cœur de gagner ici, à domicile, pour se donner un peu d'air, pour aussi se donner un peu de confiance et se dire que ce groupe est capable d'eux. Maintenant, il n'y a pas de pression qui est mise de ce genre-là. Nous, la pression, on la met toujours sur le contenu, sur le rugby, sur la qualité du jeu produit, sur la qualité de l'engagement et de l'investissement de chacun des joueurs. La pression, elle est de ce côté-là, elle n'est pas sur le résultat.
Un coup d'envoi de ce match entre Toulouse et le Racing à 21h.
Et le rugby encore, J-2, hein, moins deux semaines avant le début de la Coupe du Monde au Japon.
Oui, les Bleus sont arrivés il y a quelques heures au pied du mont Fuji pour préparer leur premier match. Ce sera face à l'Argentine le 21 septembre. Alors comme le top 14 se poursuit, on en a profité pour aller à la rencontre des fans de rugby, voir s'ils croyaient en leurs Bleus. Et vu Toulon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas très optimiste, Fanny Le Chevestrier.
Toulon, où la ferveur pour le rugby se vérifie chaque match à domicile, comme hier pour le retour des Rouges et Noirs au Stade Mayol. Mais il faut bien avouer que dès qu'on évoque les Bleus, là le soufflet retombe.
Ça m'emballe pas, l'équipe ne m'emballe pas. À vous dire au revoir, je les suis plus beaux. C'est pas qu'on n'aime pas les Bleus, c'est que c'est plutôt le staff qu'on n'aime pas.
Michel, supporter de rugby depuis qu'il est minot, a du mal à croire en cette équipe de France. Même sentiment chez les plus jeunes comme Jean-Baptiste, 23 ans. Quand on lui pose la question d'un exploit possible, la réponse fuse.
Vous y croyez ?
Pas du tout, honnêtement. J'ai suivi l'Argentine dans le Four Nations, c'est au-dessus de nous, pour moi.
L'Argentine, premier adversaire du 15 de France. Mais pour Christine, pas question de tout voir en noir. En plus, les Bleus ont un crack qui montre l'exemple et qui s'appelle Charles Olivon, le Toulonnais revenu de nulle part après deux années de blessures.
Mon petit qui a été sélectionné envers et contre tout par rapport à son épaule.
Ah oui, Olivon, très bon joueur, mais bon, à lui tout seul, il peut pas faire une équipe.
Pour résumer, à Toulon, peu, voire personne n'y croit, mais ils seront tout de même tous au soutien.
La dernière Coupe du Monde, on séchait les cours au lycée pour aller voir les matchs à côté, donc oui, oui.
Supporter, c'est pas que dans la victoire, c'est aussi dans la défaite. Supporterai envers et contre tout.
Rendez-vous a donc pris pour le 21 septembre à 9h15 face à l'Argentine.
À noter que les Bleus ne sont pas arrivés seuls au Japon. Faxai, un cyclone historique, a frappé Tokyo quelques heures seulement après l'atterrissage de l'équipe qui a pu passer entre les gouttes. Côté staff, 4 tonnes de matériel ont également atterri pour peaufiner la préparation avant le premier match. On le disait le 21 septembre face au Pumas argentin.
Thomas Larabie, l'euro de volley à domicile en France, ça s'approche.
Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais forcément la com qui va avec est en train de se déclencher à 4 jours du début de la compétition. Vous verrez sans doute un visage partout à Nantes, à Montpellier et à Paris. Les trois villes où l'équipe de France de volley va disputer son euro. Ce visage, c'est celui d'Erwin Engapet, la star de l'équipe de France. Il est considéré même comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et avec cette exposition inhabituelle pour lui, écoutez ce grand golgothe d'1m94 et tout gêné.
Au début, j'avais du mal parce que je détestais même. Mais en fait, on a beaucoup parlé et pour que le volley français prenne la place, ça passe vachement par nous. Donc ça veut dire les réseaux sociaux, faut que tu sois, faut que tu sois présent et les choses comme ça là, moi ça me saoule de voir ma tête là. Et des potes ils sont à Montpellier, ils me disent t'es sur le tram, c'est ça, mais j'aime pas ça. Mais ça passe par là pour que le volet il avance. C'est pas lourd parce que c'est, je sais pourquoi. Et après la chose aussi c'est que nous au volet on a une particularité, c'est que c'est comme ça pendant 3 mois et demi parce qu'on est en équipe de France et qu'on joue, mais après pendant 7 mois on ne voit plus quoi. Donc justement je préférais que ce soit plus long, parce que nous après c'est comme si on fait notre compète et entre guillemets on nous oublie, tu vois. Donc c'est compliqué.
Le premier
c'est
match,
touchant.
C'est touchant. Compliqué, touchant. Premier match des Bleus et pour Erwin Engapet, c'est jeudi prochain à Montpellier face à la Roumanie. Quelques mots de cyclisme. L'Américain Sepp Kuss remporte la 15e étape du Tour d'Espagne sur les hauteurs du Santuario del Acebo dans les Asturies. Le maillot rouge de leader est toujours sur les épaules de Primoz Roglic. Il s'est échappé avec l'Espagnol Alejandro Valverde, son principal rival, qui pointe toujours à 2 minutes 25. Le Français Nicolas Hédé pointe toujours à la 7e place.
Thomas Larabie pour Intersport. Merci Thomas.